Vous êtes avec SBS French.
Et les grands titres de ce 24 avril, les principaux partis font campagne le dimanche de Pâques orthodoxe avec des promesses de dépenses. L'Ukraine s'engage à reprendre le territoire perdu lorsqu'elle aura suffisamment d'armes de ses alliés occidentaux. En France, jour de vote ce dimanche pour choisir le nouveau président. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que son pays était prêt à reprendre tout territoire occupé dès qu'il obtiendrait des quantités suffisantes d'armes de ses alliés occidentaux. Le président rencontrera ce dimanche le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin pour déterminer les détails de la livraison des armes promises par l'Amérique. Il a déclaré aux journalistes lors d'une conférence de presse tenue dans une gare souterraine de Kiev que l'Ukraine était convaincue de regagner du terrain une fois ses armes arrivées.
Everywhere they break through, everything they, God forbid, occupy, we will get everything back. And it's not a matter of 10 or 20 years, and not an 8-year war like the one we've had since 2014. It is a matter of us having the weapons. As soon as we get them in sufficient numbers, believe me, we will be returning any occupied territory immediately.
Pendant ce temps, l'Ukraine dit qu'elle arrêtera les pourparlers avec la Russie si des personnes sont blessées à Mariupol et si des référendums sont organisés dans les territoires occupés. Les Nations Unies estiment qu'au moins 2435 civils ont été tués et 2946 personnes blessées en Ukraine depuis le début de la guerre le 24 février dernier. Mais le chiffre réel serait bien plus élevé. Et pour la Pâque orthodoxe ce week-end, il n'y a pas de trêve. Reportage de Stéphane Suwan pour RFI.
En ce week-end de Pâques orthodoxe, pas de trêve en Ukraine, où les bombardements se sont poursuivis notamment à Kharkiv et Odessa. Un contexte qui a fortement pesé sur la tonalité de la conférence de presse de Volodymyr Zelensky, qui s'est montré non seulement combatif, mais a laissé poindre de la colère et une forte émotion. D'abord, le président ukrainien a indiqué que ce dimanche, à Kiev, il discuterait avec les secrétaires d'État et à la défense américains, Anthony Blinken et Lloyd Austin, au programme de nouvelles livraisons de pièces d'artillerie de gros calibre, la seule façon, selon Zelensky, pour reprendre à l'armée russe les territoires envahis depuis 2 mois. Volodymyr Zelensky a également admis qu'un déblocage du siège de Mariupol par des moyens militaires était impossible à ce stade, et il a condamné les initiatives de la Russie alors que le Kremlin souhaite mettre en place dans la région de Kherson un référendum pour établir une république populaire similaire à celle de Donetsk et de Lugansk. Enfin, le chef d'État ukrainien, au bord des larmes, a évoqué le bombardement d'Odessa ce samedi, qui a fait 8 morts, dont une jeune maman de 28 ans et sa fille de 3 mois. Il a traité les Russes de salauds, je cite, condamnant des actions similaires à celles d'il y a 80 ans en Europe.
Le principal organisme d'enquête de l'État russe a déclaré qu'il examinait un rapport des médias russes alléguant que des experts en sabotage des forces spéciales SES du Royaume-Uni avaient été déployés dans l'ouest de l'Ukraine. L'agence de presse russe RIA Novosti a cité une source de sécurité russe disant qu'une vingtaine de membres du SES avaient été envoyés dans la région de Lviv. Dans un communiqué, la commission d'enquête a déclaré qu'elle donnerait suite au rapport qui leur avait été envoyé pour aider les services spéciaux ukrainiens à organiser le sabotage sur le territoire ukrainien. Un porte-parole du ministère britannique de la Défense s'est refusé à tout commentaire. Le Special Air Service est une force militaire d'élite formée pour mener des opérations spéciales de surveillance et de lutte contre le terrorisme. En Australie, le Premier ministre a recommencé à faire campagne après avoir assisté à un service religieux à Sydney pour marquer la Pâque orthodoxe. Scott Morrison s'est adressé au service, disant à la congrégation que c'était une période, je cite, de grand espoir.
A time of overcoming, a time of looking forward to the future with confidence. I want to thank you for your faith. I want to thank you for your great sense of community, faith and community that has sustained our country over these past many difficult years.
Et de retour sur la campagne électorale, le Premier ministre a parlé de ne pas introduire de nouvelles taxes. Les travaillistes ont lancé des plans pour prendre des mesures pour lutter contre l'évasion fiscale des multinationales. Les responsables des deux partis se rendent à Darwin ce dimanche pour assister à la cérémonie marquant Anzac Day, demain 25 avril à l'aube. Un groupe de médecins s'est joint à l'appel pour que les soins dentaires soient rajoutés au système Medicare. Le Parti des Verts a déjà fait pression pour que les soins dentaires soient rendus accessibles dans le cadre de Medicare. L'Australian Doctors Reform Society a maintenant rejoint cette campagne. Le porte-parole de la société, le Dr Robert Maher, a déclaré que de nombreux Australiens souffrent et certains meurent même car ils n'ont pas les moyens de se faire soigner les dents. Il a déclaré sur SBS News que de nombreuses personnes ne réalisent pas à quel point les soins dentaires sont importants pour la santé globale.
It's one of the things that even as doctors we're only coming to fully realize now. I mean, there's even an association between dental germs in the mouth and heart attacks. So, you know, dental care is a vital missing link in the Medicare system.
Les résidents qui nettoient après les inondations dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud et le sud-est du Queensland sont invités à porter un équipement de protection pour minimiser le risque d'exposition à l'amiante. Le Cancer Council affirme qu'il est possible que l'amiante, qui était couramment utilisée dans la construction entre les années 40 et les années 80, soit présente dans certains bâtiments et maisons. L'expert en santé publique, le professeur Tim Driscoll, a déclaré sur SBS News que l'exposition à l'amiante peut causer des maladies des années plus tard. Il dit que la forte recommandation est que les gens fassent appel à des professionnels pour l'évaluation et le retrait de l'amiante, mais qu'il y a encore des mesures qu'ils peuvent prendre s'ils ne sont pas en mesure, c'est-à-dire de porter des masques P2 et N95.
The best thing in that situation, or best two things, are to wet the material and to wear a mask. And the sort of mask I'm talking about there is the one that type we've been recommended in COVID-19, not the ordinary surgical mask, but the P2 or N95 masks.
La Nouvelle-Galles du Sud et le Victoria ont enregistré ce week-end plus de 18 000 nouveaux cas de COVID-19 ainsi que 10 décès, alors que le bilan national depuis le début de la pandémie approche les 7 000 morts. Près de 42 000 nouveaux cas de coronavirus et 44 décès ont été signalés à travers le pays hier samedi. Il y a encore plus de 370 000 cas actifs de COVID-19 dans tout le pays, avec plus de 3 000 patients hospitalisés et environ 130 d'entre eux en soins intensifs. Au moins 12 personnes sont mortes et 10 autres sont toujours portées disparues après le naufrage de plusieurs bateaux transportant des migrants à travers la Méditerranée vers l'Europe. Selon des responsables de la sécurité, 4 bateaux transportant 120 migrants ont coulé au large des côtes tunisiennes en Afrique du Nord, les survivants ayant été secourus au large de la ville de Sfax sur la côte est. Dans un autre incident, un enfant est mort et plus de 40 personnes ont été secourues après le naufrage de leur bateau au large de la ville portuaire de Tripoli, au nord du Liban. La Croix-Rouge libanaise a déclaré qu'il y avait environ 60 personnes à bord et qu'elle avait envoyé plus d'une douzaine d'ambulances sur les lieux. Le second tour de la présidentielle en France, c'est ce dimanche, avec le vote en Outre-mer qui a déjà débuté, comme nous l'explique Pierre Olivier pour RFI.
C'est l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon au large du Canada qui a été le premier des territoires ultramarins à voter samedi dès la mi-journée. Le coup d'envoi pour le second tour a également été donné dans les Antilles et en Guyane. Décalage horaire oblige, ce sont ensuite les territoires situés dans le Pacifique et l'océan Indien qui seront appelés à se prononcer. C'est également le cas pendant environ 24 heures selon le fuseau horaire pour les Français installés dans un pays étranger. En métropole, les bureaux de vote ouvriront à 8h dimanche et jusqu'à 19h ou 20h dans les grandes villes comme Paris. Au total, ce sont près de 48,7 millions d'inscrits sur les listes électorales qui pourront se prononcer. Jusqu'au résultat proclamé dimanche à 20h, aucune interview, sondage ou estimation de résultat ne peut être publiée.
La chaîne Arte propose ce dimanche soir un film tourné et diffusé en direct pour ce second tour. Ce film s'appelle « Jour de gloire ». Précision de Sophie Pouzera pour RFI.
Deux frères que la politique oppose se retrouvent le soir du deuxième tour. Le scénario est simple et d'actualité, mais c'est surtout le tournage qui est un défi. Un long plan séquence d'une heure où les deux personnages, incarnés par Félix Moati et Julien Campani, découvriront en direct le résultat de l'élection présidentielle. L'événement n'est pas choisi au hasard, Florent Péfer, coproducteur du film.
Pour nous, c'était important que ce film ait lieu à ce moment-là pour marquer vraiment ce moment aussi comme un souvenir, comme un document historique, peut-être, en tout cas on l'espère. Sur cette élection présidentielle, ce qui est intéressant aussi pour nous, c'est qu'on a une date et une heure précise. C'est-à-dire qu'on sait qu'à 20h00, il va se passer quelque chose.
Autant dire que le timing règne en maître sur ce projet, car les personnages doivent arriver devant la télévision pile au moment où le nom du futur chef d'État sera dévoilé. L'opération n'est pas sans risque. François Pécheux, deuxième coproducteur de Jour de Gloire.
Alors les risques, si on commence à les lister, il y en a 20 000. Bon voilà, on a pensé
à peu près à tout, au tonnerre, à la pluie, aux manifestations, aux cris, aux moteurs, aux klaxons. On pense à peu près à tout ça, on sécurise. Quoi qu'il arrive, on va au bout du film et on raconte l'histoire.
Une histoire réalisée par Jeanne Frequel et Cosme Castro, qui songent déjà à réitérer l'expérience lors d'autres événements publics, comme les Jeux Olympiques ou le Festival de Cannes.
En Belgique, un rassemblement hier pour soutenir Julian Assange suite à la décision britannique d'autoriser son extradition vers les États-Unis. Le reportage de Pierre Benazé pour RFI.
Sa liberté, c'est notre liberté. La guerre commence par les mensonges. Les slogans sont nombreux devant le Théâtre de la Monnaie à Bruxelles pour les manifestants rassemblés autour de photos de Julian Assange bâillonnés d'un drapeau américain. Birgit est venue d'Aix-la-Chapelle dans un autocar affrété pour l'occasion.
Si quelqu'un comme Julian Assange peut être persécuté seulement pour avoir publié des crimes de guerre, alors ça sera un modèle pour tous les États qui ne veulent pas qu'on voit leurs crimes.
Mathias est venu de Paris avec un panneau qui réclame l'asile politique en France pour Julian Assange.
La mobilisation est en train de grossir, de plus en plus de gens vont être informés et par le bon sens moral vont réagir et peut-être que Julian Assange sera libéré un jour. Autrement, je pense qu'il restera un symbole, un martyr. Et ça, c'est déjà pas mal.
Pour certains, l'optimisme est encore possible. C'est le cas d'Annie, venue de Beauvais pour soutenir le fondateur de Wikileaks.
Si Julian est extradé, si vraiment ils vont jusqu'au bout de leur cochonnerie, ça veut dire qu'on n'aura plus droit à la formation. Non, et Julian doit sortir. Julian, c'est un héros.
Et tous demandent une mobilisation politique de l'Union européenne et des gouvernements contre la persécution de Julian Assange.
Et on revient sur la guerre en Ukraine avec l'huile de tournesol qui va être rationnée en Europe. Précision de Justine Fontaine pour RFI.
Des rayons d'huile végétale vides, c'est ce qu'observent certains consommateurs français et européens dans leurs supermarchés ces dernières semaines. Pour éviter que les clients fassent des stocks, des magasins Lidl en France, par exemple, limitent les achats à 3 bouteilles d'huile de tournesol par personne. Le même scénario se répète en Espagne ou encore en Belgique. Car si avant la guerre, l'Ukraine assurait la moitié de la production mondiale d'huile de tournesol, désormais ses ports commerciaux sont bloqués et les exportations par la route. Plus grands exportateurs d'huile de tournesol a imposé des quotas et des taxes pour les ventes à l'étranger. Enfin, la guerre risque de diminuer de moitié les récoltes en Ukraine cette année, d'après le ministre de l'Agriculture ukrainien. Dans ce contexte d'incertitude, les prix de l'huile de tournesol ont augmenté de 20 à 25% environ en France et au Royaume-Uni. Des hausses qui concernent aussi par ricochet d'autres huiles et créent des tensions, comme en Indonésie par exemple, qui a suspendu vendredi ses exportations d'huile de palme après des manifestations contre la hausse des prix.
Et on passe à la météo pour ce dimanche. En Australie, à Perth, il fera 29 degrés. Adélaïde, 26. Melbourne, 19. Hobart, 19 également. Canberra, 20. Sydney, 23. Brisbane, 25. Cairns, 29. Darwin, 34. Et à Alice Springs, maximal de 21 degrés. Un rappel des grands titres de ce 24 avril. Les principaux partis font campagne ce dimanche de Pâques orthodoxe avec des promesses de défense. En France, jour de vote ce dimanche pour choisir le nouveau président. C'est la fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français ?
continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.